pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est une de ces vidéos qui fait le tour de la planète en 2 heures et parle d'elle-même. Nous sommes à Venise, sur le Grand Canal. Un vaporetto gorgé de touristes avance doucement. Dans l'eau en contrebas, un homme semble en mauvaise posture. Il se débat vaguement contre les flots, mais sans grande détermination. Il semble se laisser aller. Il y a clairement un problème. On n'entend pas de cris, pas de son apparemment dans la vidéo. Ce que font les touristes pendant ce temps sur le bateau est assez édifiant. Ils ne sautent pas pour le sauver, ça c'est sûr. Personne ne se jette héroïquement à l'eau après avoir enlevé son t-shirt de manière mélodramatique, comme dans les films ou les séries, tout genre confondu. Que l'homme soit noir n'est peut-être pas étranger à ce manque d'empressement, ou en tout cas à cette espèce de sidération, on ne sait pas. Mais ce qu'on voit bien, c'est que les touristes continuent à faire leur job de touristes, c'est-à-dire à filmer avec leur téléphone et à prendre des photos. Ils filment donc l'homme qui se noie et le photographie. Curieusement, c'est ça qui choque le plus certains après coup, le filtre des images, cette façon qu'ils jugent dramatique de se cacher derrière les images, de ne pas se confronter au réel. Mais peut-être les touristes sont-ils embarrassés, ne savent-ils pas quoi faire et se disent qu'au moins ils font quelque chose d'utile, ce qu'il faudrait faire. L'un d'eux a tout de même l'idée de lui lancer un gilet de sauvetage, mais l'homme ne le saisit pas. Puis on lui jette une bouée et une autre que l'homme ne semble pas chercher à atteindre. Au bout des 56 secondes que dure le petit film, l'homme est mort. Un autre vaporetto est passé, l'image tremble, personne n'a sauté. Dans une autre vidéo, récupérée ensuite par la police et citée par Libération, on entend une femme qui, après la noyade, se plaint de ce que le bateau est immobilisé. Des autres touristes lui répondent « Tu le traitais de merde pendant qu'il se noyait, on espère que ce sera toujours une tâche sur ta conscience. » Grande princesse, la municipalité de Venise a annoncé qu'elle prendrait en charge les funérailles de ce gambien de 22 ans, Pate Sabali. Aujourd'hui, dans les pieds sur terre, 2 autres catastrophes, maritimes en l'occurrence, et la question de savoir qui fait quoi dans ces cas-là, qui sont les héros ou pas, ce sont 2 récits racontés par Delphine Saltel jusqu'à 14h sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
C'était une croisière en Méditerranée. Nous partions de Marseille, direction Barcelone, ensuite Palma de Mallorca, Rome. C'était la première fois que nous faisions une croisière, donc ça nous enthousiasmait. On était très contents de partir 8 jours comme ça, tous les deux. Mon mari étant un ancien marin de commerce, il était très content de retrouver un peu cette ambiance maritime. C'est un énorme bateau où étaient 4000 passagers. Et quand vous êtes au pied de la passerelle pour monter à bord, eh bien ça vous semble un immeuble de 4-5 étages. C'est énorme. Nous avions pris le moins cher du bateau parce que c'était une promotion. Et nous nous sommes trouvés dans une cabine sans balcon, sans fenêtre, sans hublot, pardon. La cabine était quand même relativement petite. Ce n'était pas du tout dans des endroits prestigieux. C'était vraiment premier pont au-dessus des machines. Alors donc, nous sommes partis avec un très grand vent. J'étais pas très rassurée. Mon mari me dit « Non, c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a les stabilisateurs, ça va pas trop bouger. » Et là, nous avons donc commencé à nous installer pour le repas. Nous prenons le menu et nous nous apercevons que dans le menu, il y avait du lapin. Donc mon mari m'a tout de suite dit « Surtout pas manger de lapin, c'est un mauvais présage. » Parce que dans la marine marchande, si un cuisinier mettait du lapin dans ses menus, je crois qu'il aurait passé par-dessus bord. C'est des superstitions peut-être, mais les marins, ils sont très carrés là-dessus. Dans les jours qui ont suivi, mon mari trouvait que le capitaine naviguait très près des côtes. Moi, je me moquais de lui en lui disant « Oui, toi, parce que tu as été dans la marine tout de suite, tu vois le défaut des autres, etc. » Donc, bon, je m'en suis méfiée qu'à moitié. Hein, je veux dire que ça ne m'a pas du tout inquiétée. Nous avons accosté à Barcelone, à Cagliari, en Sardaigne. Tout était calme. Ce soir-là, nous avons été jouer au casino. On n'a rien gagné, d'ailleurs. Et nous sommes retournés dans notre cabine. C'était à peu près 21h30. Et à 22h40, eh bien écoutez, on a entendu un bruit énorme, assourdissant, qui venait des ténèbres. C'était impressionnant, ce bruit, je l'ai toujours dans la tête, je le revis souvent. Et le bateau part en avant et part en arrière. Mon mari me dit, oh là là, on a accroché, il faut partir. Donc là, nous avons tout de suite pris nos gilets qui se trouvaient dans la cabine. À savoir qu'on n'avait jamais fait d'exercice d'évacuation. Il m'a dit, mets vite ton gilet. Et nous sommes sortis. Mais mon mari n'avait pas le temps de s'habiller. Il était en slip, en tricot de corps. Et moi, j'étais en pantalon. J'avais juste pris mes chaussures et un petit sac que j'avais. Donc nous sortons. Je vois une dame avec des petits enfants qui pleuraient. Je me suis mise assise par terre. J'ai senti que la moquette était brûlante. Je pense que c'était l'eau qui avait envahi les machines. Et j'ai dit, bon, ben, je vais mourir dans 20 minutes, ça va être mon heure. C'est là. Donc là, à ce moment-là, lorsque nous sortons de notre cabine et que moi, j'étais dans l'effondrement le plus total, j'ai entendu le ressortissant français qui était censé s'occuper des Français à bord nous dit au micro, sous les ordres du commandant, retournez dans vos cabines, c'est un problème électrique, nous avons la situation en mer, retournez dans vos cabines. J'étais presque sous le coup de l'écouter et de retourner dans ma cabine. Et là, alors là, c'était perdu pour moi, jamais, parce que c'était plus possible d'en sortir après. Je me retourne vers mon mari. Il me dit, non, il ne faut pas retourner dans nos cabines. Il faut monter le plus haut possible. Nous étions très bas dans le bateau et mon mari ne voyait qu'une issue, c'était de monter pour essayer de s'en sortir, hein, tout bêtement, hein, c'est tout. Hein. On avait dans la tête qu'on allait couler. On était complètement perdus au milieu de toutes ces coursives. D'un coup, la lumière s'est éteinte. On était dans le noir et le bateau avait de la gîte. Hein. Il penchait vraiment. On avait du mal un peu à se tenir debout. Il fallait qu'on prenne du recul pour pouvoir se tenir. Je ne savais plus où on en était. On ne se quittait pas avec mon mari, on se serrait. C'était vraiment un moment où on s'est dit, est-ce qu'on va s'en sortir? Et lorsque nous sommes arrivés au quatrième pont pour pouvoir essayer d'embarquer dans une chaloupe, nous n'avons vu aucun officier de pont sur le bateau. Personne. Ils avaient disparu, hein, certainement que le commandant était parti. On ne savait pas, on n'a pas su du tout. On a su qu'après que le commandant, ça a été le premier à prendre une chaloupe. Déjà, à monopoliser une chaloupe pour sa petite personne, hein, avec ses petits officiers, on n'a vu personne. Lorsque nous sommes montés sur la chaloupe, ce sont deux membres d'équipage philippins qui nous ont aidés à monter dans cette chaloupe et qui essayaient, avec tous leurs efforts, de faire descendre cette chaloupe. Ce n'étaient pas des gens qui étaient compétents pour faire ce genre de choses. Ils n'étaient pas du tout officiers. Ils étaient là juste pour nous servir au restaurant ou en cuisine ou faire nos lits, etc. C'était le petit personnel. Et le grand personnel n'était pas présent. Ce sont des gens qui gagnent des peccadilles et puis c'est eux qui ont été beaucoup plus humains que tous, comme s'ils avaient fait du sauvetage toute leur vie. Ils nous secouraient, ils nous rassuraient et on n'a vu personne avec des galons. Que ce soit à bâbord, à tribord, au quatrième, au cinquième, au septième, partout, aucun officier. Le moteur était grippé, il y a un filin qui était coincé. C'est un naufragé qui a pris une hache, il a cassé le filin. Le filet s'est rompu et nous sommes tombés d'un mètre. Boum, la chaloupe a tapé la coque. On a tous crié parce qu'on a eu peur, bien sûr. Donc à ce moment-là, les deux membres d'équipage philippins ont compris qu'on n'arriverait jamais à descendre avec cette chaloupe, nous ont remonté. Donc là, à ce moment-là, arrive un des seuls galonnés du membre d'équipage. Et là, il nous a dit « traversard ». Et là, il nous montrait le restaurant. Moi, je ne l'ai même pas vu. Et il fallait traverser pour essayer de retrouver l'autre côté du bateau qui était plus près des côtes. Je ne sais plus si c'est bâbord ou tribord, je ne me rappelle jamais. Donc là, moi, mon mari m'a dit « il faut y aller ». C'était tout noir. Donc ça voulait dire qu'on allait à l'aventure, qu'on ne savait pas ce qu'on allait trouver. Est-ce que de l'autre côté, il y avait bien la chaloupe? On ne savait rien. On est parti vraiment à l'aveuglette. Hein. Avec une gîte au moins de 70%, Il fallait vraiment se mettre en arrière pour pouvoir tenir debout. J'avais l'image du Titanic. Je me suis pris de la vaisselle dans les jambes, les chaises qui volaient, les tables ne volaient pas, heureusement, parce qu'elles sont vissées, et les canapés ne bougeaient pas parce qu'ils sont vissés également. Mais tout le reste bougeait, tout le reste valdinguait de tous les sens. Mon mari tombait, je le relevais, il retombait, je l'aidais à le relever, personne ne vient, c'est... Oh, je leur en veux pas, hein, parce que tout le monde était dans le même cas, je veux dire, on passe qu'à soi, on passe qu'à sauver notre peau. Nous nous sommes encastrés dans des canapés, s'ils n'avaient pas été là, je crois qu'on s'est éclaté contre les murs, hein. Et donc là, nous sommes sortis sur ce pont, qui était dans l'eau déjà, et la chaloupe, elle était vraiment au bord, on n'a eu qu'à enjamber. On a eu de la chance parce qu'elle allait partir, cette chaloupe, elle était pratiquement pleine. Ils ont vu qu'on arrivait, donc les Philippins toujours, et ils étaient là, ils nous ont attendus, donc c'était notre chance parce que c'est grâce à eux que nous en sommes sortis. C'est des gens qui, ce sont des héros pour moi. C'était vraiment la dernière chaloupe. Il n'y avait que celle-là. Et je pense qu'il y avait derrière nous un couple qui ont raté donc cette chaloupe. Lui, il a sauté à l'eau. Il a dit à sa femme, viens. Elle a eu peur, elle n'a pas pu sauter tout de suite. Il n'avait pas de gilet. Il n'est jamais remonté, lui. Ils l'ont retrouvé que plus tard. Son épouse, je crois qu'elle s'est laissée même aller dans l'eau comme ça, avec son gilet. Elle a nagé jusqu'au rocher. Ça, c'est quelque chose qui nous hante aussi, tous les deux.
Transculture, les pieds sur terre.
Je suis Marc Tiercelin, navigateur de course au large. J'ai fait 5 tours du monde en solitaire, 22 transats et beaucoup d'autres courses. Et j'ai navigué tout autour de la planète. Et à une époque, j'avais un grand bateau de croisière sur lequel j'emmenais les petits-enfants pour leur apprendre la mer. Un grand bateau de 15 mètres, en acier, un bateau de course, un voilier. Et sur lequel j'ai emmené à peu près 400 enfants pendant 4 ans. Alors dans les îles anglo-normandes, en Angleterre, en Espagne, en Irlande. Et en février 1992, je devais ramener ce bateau des Antilles vers la France, vers la Bretagne. Donc une traversée de l'Atlantique à la pire époque et dans le mauvais sens. Ramener un bateau dans le sens Amérique-Europe en hiver, c'est souvent affronter des dépressions, affronter des très mauvaises mers et des conditions vraiment difficiles. Et donc pour cette traversée, était à mes côtés un ami qui faisait office de second. J'avais un jeune en formation pour passer un diplôme de capitaine et 3 jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse avec leur éducateur. Alors ça avait été une idée d'un éducateur qui faisait vivre des choses fortes à des jeunes plutôt que de passer par la case, si ce n'est prison, en tout cas préventive. Il préférait leur faire faire du saut en parachute, de la voile, de la montagne, de la randonnée. Ça a dû leur être proposé. Ils ont dû se dire, entre la case prison et aller faire une traversée de l'Atlantique, on choisit la traversée de l'Atlantique. Sauf que peut-être qu'ils pensaient à la croisière s'amuse. Et donc, ils n'avaient pas l'idée de ce dans quoi ils allaient arriver. C'était vraiment une première pour moi avec des jeunes comme cela et puis pour eux qui n'avaient jamais fait de voile avant. C'était des grands gaillards très dans la révolte, on va dire, bon, qui avaient chacun fait quelque chose de problématique et de répréhensible. Chacun à son niveau. L'un était supporter un ultra dans le football. L'autre avait attaqué avec toute une bande une boîte de nuit en Bretagne. Et le troisième avait des problèmes sociaux dans l'univers familial. Le plus jeune, donc Mario, était donc supporter du PSG à Paris. Il était ce qu'on appelle skinhead. Il avait une sorte de révolte patente, ne faisant pas les choses, ne rangeant pas ses affaires, ne participant pas aux tâches de tout l'équipage, etc. Donc c'était des révoltes, on va dire, physiques. Là où les deux autres étaient un peu d'univers plus frustre, un peu, de la campagne, c'était des bons gars, quoi, des coquers, quoi, enfin, des suivistes et des coquers. Puisque le jeune est arrivé crâne rasé, les autres étaient chevelus comme pas possible, et au bout de 3 jours, ils étaient crâne rasé. Donc il a fallu quand même supporter des phrases fascistes, des phrases voire nazies, etc. Ils étaient vraiment dans leur adolescence, dans leur violence, dans leurs actes gratuits et dans une pensée qui n'était pas du tout organisée et qui partait dans tous les sens, histoire de marquer son territoire et puis d'emmerder tout le monde, quoi. Et puis, moi, je devais commander un navire, l'amener à bon port, parce que le but originel, c'était de ramener un bateau en Europe, hein, quand même. C'était pas de... j'aime pas cette expression, mais c'était pas de faire du social. Donc, ça faisait une petite équipe de 7 personnes, en me comptant, en tant que capitaine du navire, du Cirrus. Le tout sur donc un bateau de 15 mètres de long sur à peu près 5 mètres de large. À partir du moment où on est parti en mer, on ne peut pas s'échapper de ça. La vie en promiscuité, le froid, on est au mois de février, il y a beaucoup de vent, souvent c'est très humide. Moi je suis quelqu'un qui aime les aventures, donc j'ai été servi. J'ai embarqué tout ce petit monde à bord et on est parti. Dans un temps assez violent, mais on ne pouvait pas faire autrement. Avec une longue houle de 8 mètres, à peu près, 8-10 mètres. Et le bateau galopait dans les vagues. Et à un moment, je donne donc la barre au plus jeune, à Mario. Il avait appris, hein, pendant les débuts de la traversée. Il commence à barrer. Et puis très vite, il me dit, y a un problème, j'ai la barre qui est bloquée, j'ai un problème. C'était une barre à roues, une barre donc comme un grand volant. Et donc je viens à côté de lui, j'essaye aussi. Puis effectivement, je vois que c'est embuté d'un côté et embuté de l'autre. Et je demande à Louis s'il est OK pour plonger, pour voir ce qui se passe. Louis, mon second, voilà. Et il le fait. Et il me dit, il n'y a plus de gouvernail. Donc, on n'a plus de quoi diriger le bateau. On ne peut plus l'amener à tribord, à bâbord. On ne peut plus tourner. On ne peut plus rien faire. On va devenir le jouet des flots à partir de ce moment-là. On est au milieu de nulle part. On est quand même loin des Bermudes. On est très loin de l'Amérique. On est encore plus loin du Groenland et tout ça. On est loin de l'Europe. Et si le vent continue de monter encore plus, voire si on a les très grosses tempêtes d'hiver, ce qui va pas manquer plus tard, eh bien là, on pourrait se retourner, on pourrait couler. Donc il faut quand même agir vite. Il faut que dans les heures qui viennent, on trouve une solution pour ou remorquer le bateau, mais ça va s'avérer impossible, ou évacuer l'équipage et donc abandonner le navire. Donc très vite, on fait appel à des secours. Donc via le Cross Corsen et via Saint-Lys Radio, ils essayent de trouver des cargos sur zone qui pourront venir nous aider. Très vite, ils nous disent, on a dérouté un cargo pour venir vous accoster. Alors il faut se rappeler que donc le bateau, certes, il fait 15 mètres, donc c'est grand, mais ils vont dérouter un porte-container de plus de 300 mètres, enfin de 350 mètres de long, c'est un monstre. C'est comme si on essayait d'aborder un tricycle avec un double 38 tonnes, quoi. Et donc le bateau va arriver, alors pas tout de suite, nous on va l'attendre, on va mettre un des jeunes dans la mâture pour pouvoir guetter, puisque sur un océan, un bateau c'est une tête d'épingle. À l'époque, il n'y a pas le GPS comme on a aujourd'hui, on est sur des positions beaucoup plus approximatives, le vent va être fort mais la brume va tomber, donc on verra plus rien pendant pas mal d'heures, et j'ai mis un jeune donc dans la mâture qui est censé nous avertir quand il voit quelque chose. Celui qui était le plus rebelle et le plus difficile à gérer, donc je l'envoie dans le mât, je l'envoie à 20 mètres de haut, comme ça il me laisse tranquille, parce que moi il faut imaginer que c'est mon bateau, je suis en train de me rendre compte tout doucement que c'est peut-être les dernières heures que je vis à bord, que je vais devoir tout abandonner à bord, toutes mes affaires, toute mon histoire, tout mon passé, donc les conflits avec les jeunes ça va, mais c'est pas central quoi. Le temps que le bateau arrive sur nous, il s'est passé quasiment 6 heures, 7 heures. Donc il va peu à peu arriver sur l'horizon. On va voir au début une petite tache qui va grossir tout doucement, mais grossir. Je dis, là, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est juste monstrueux. On se retrouve avec un immeuble de 35 mètres de haut qui nous arrive dessus tout doucement, mais il nous arrive dessus quand même, et qui avance. Et nous, on est figé puisqu'on peut ni avancer, ni reculer, ni aller sur le côté, ni rien. Moi, j'avoue que je ne pense plus à moi, je ne pense plus au côté matériel des choses, je pense à l'équipage, c'est-à-dire les hommes. Comment j'organise la sortie de tout ce petit monde devant ce mur d'acier qui fait plus de 30 mètres de haut? Comment on va escalader ça? L'idée, quand ce bateau arrive, et j'ai bien expliqué à tout l'équipage ce qui va se passer, c'est d'essayer d'arriver à s'accoster à lui pour pouvoir grimper le long de cette tôle qui est immense. Donc je leur explique, voilà, on va s'amarrer et après il faudra évacuer. Il y aura un ordre d'évacuation, c'est-à-dire le plus ancien, donc l'éducateur, ensuite les trois jeunes, Olivier qui est en formation, et ensuite lui, mon second, et ensuite moi, le capitaine qui, donc comme le veut la tradition, quitte le navire en dernier. Là, C'est religieux, hein. C'est-à-dire qu'ils écoutent, mais alors j'aurais pu leur dire « vous sautez autour du bateau, vous nagez, vous remontez », ils l'auraient fait, hein. Même en maillot de bain, alors qu'on est en février dans les eaux glaciales. Ils sont complètement différents de ce que j'ai vécu les semaines précédentes, parce qu'ils voient bien que la situation a dramatiquement changé, et que là, il faut sauver sa peau. Tout le falbala qui m'ont servi pendant des semaines, il est un petit peu oublié, quoi. Donc, je dis un truc, ils sont efficaces, ils me disent ça va, c'est bien, ils me disent presque merci, c'est incroyable. Et là, tout d'un coup, on voit le bateau arriver, mais par notre travers. On se dit, mais est-ce qu'ils sont conscients qu'on n'a aucun moyen pour avancer ou reculer? Et là, je vois le mur d'acier dans l'eau qui pend. Et tout d'un coup, il va nous prendre par le travers, il va nous rentrer dedans. Donc là, quand je vois que c'est inévitable qu'on va se faire exploser, d'ailleurs, j'ai pensé sur le coup qu'on allait couler d'un coup. Je hurle à tout le monde, je dis « accrochez-vous à tout ce que vous pouvez, tenez-vous à tout ce que vous pouvez et ne bougez surtout pas, ne lâchez surtout rien ». Et moi, je me souviens du choc, parce que le choc a été d'une violence inouïe, j'étais au mât, le bruit, comme les deux bateaux qui gémissent, enfin surtout le nôtre, la taille des rivets, on voyait les rivets, tout ça, et je vois l'hélice d'étrave, il y a toujours une hélice à l'avant sur des gros cargos, qui bat arrière, c'est-à-dire qu'il voulait ralentir, mais il s'y est pris bien trop tard. Je me dis, si on est précipité là-dedans, alors on va finir comme du hachis parmentier. Il faut absolument arriver à rester sur notre bateau, parce que sinon, c'est fini. Là, on va être complètement avalé par les énormes hélices de l'avant. Il le saura même jamais, le commandant là-haut. Il est trop loin. Le poste de commandement est 350 mètres derrière le choc. Il nous est rentré dedans parce qu'il ne nous voyait pas. En fait, il a continué sa route. Il avançait pas vite pour lui, mais trop vite pour nous. Et donc, on va prendre le bateau, on va rester coincé sur le bulbe à l'avant, et le mât va s'accrocher dans l'ancre au-dessus, va faire arbalète un peu, c'est-à-dire va fléchir pendant un premier temps, et tout d'un coup, j'entends un crack, un énorme crack, et c'est le mât qui casse. Et là, on est projeté à quelques mètres du cargo, avec mât cassé, bateau complètement enfoncé sur le centre, caisson arrière défoncé avec de l'eau qui rentre, antenne de communication cassée. Les jeunes sont affolés, hurlent dans tous les sens. Ils sont terrorisés. Il y en a un qui veut se jeter à l'eau. On le retient in extremis parce qu'il veut attenter à sa vie, parce qu'il dit que, de toute façon, mourir pour mourir, il vaut mieux choisir. Donc, on le retient. Un autre, il est totalement inerte. Il dit plus un mot. Il prononce plus rien. On sent qu'il se détruit de l'intérieur parce que faut imaginer, c'est un peu comme la guerre, hein, le bruit, le truc énorme. On pensait que c'était la fin. Donc, le cargo continue sa route. Ne fait pas demi-tour, il y a une liaison avec la VHF, on lui indique qu'on va pas donner suite, quoi. Mais lui aussi dit qu'il n'y arrive pas, donc il sait même pas dans quel état on est, nous, parce qu'il nous a pas vus, en fait. C'est ça le côté dramatique. Il pense que on va trouver une autre solution, mais il a laissé le bateau en mille morceaux. Hein. C'est à ce moment-là que va se jouer une partie assez étonnante, que nous avions pas vu venir. C'est qu'un deuxième cargo était arrivé sur zone et nous propose de tenter la manœuvre, lui. Le commandant et son équipe envoient un lance-amarre qui fuse dans l'air, qui va nous arriver dessus. Et donc on reçoit le lance-amarre, on amarre, et eux ont mis une échelle au milieu du bateau pour nous récupérer. Donc là, je leur dis, il faut monter les uns derrière les autres, et on va prendre l'ordre que je vous ai fixé en début de journée. René, l'éducateur, était fatigué, avait eu le mal de mer pendant plusieurs journées, donc il est complètement affaibli, il dit « moi j'y arriverai pas ». Il dit « non mais René, il faut que tu y ailles, on ne peut pas te laisser à bord ». Et pendant qu'on tergiverse avec René, un des jeunes, lui, quasiment, il saute au-dessus de René, empoigne l'échelle et grimpe, mais alors à la vitesse d'un éclair supersonique. Les deux autres jeunes, les uns derrière les autres, font la même chose. Les rats quittent le navire, se moquant totalement de l'éducateur, de l'ordre qui avait été établi, du reste de l'équipage. Eux, c'est vraiment la phrase « courage, fuyons ». Même dans le drame, ils n'ont pas su se comporter, en fait. Donc l'ensemble de l'équipage aura été sauvé. Pas le bateau, évidemment, pas les affaires du bord, pas l'histoire du bateau. Et après, le commandant du navire va me demander « est-ce que vous m'autorisez à couper la dernière amarre ?» Et le bateau va s'échapper dans le sillage du cargo, et le cargo va remettre route sur les États-Unis, puisque c'était sa destination, Norfolk, dans l'État de Washington. Et ensuite, on a été hébergé par l'ambassadeur de France à Washington, donc on est resté quelques jours chez lui, le temps de faire les papiers nécessaires pour s'envoler vers Paris. Et on arrive donc à Roissy. On passe les contrôles, la douane, etc. Et puis là, donc, ils vont être rendus et à leur éducateur habituel et aux familles. Et je ne m'attendais pas du tout à ça. Ils vont avancer vers les gens qu'ils aiment, ils vont s'embrasser, etc., etc. Et là, ils vont partir sans se retourner, sans un au revoir, sans un merci, sans rien. comme si on était allé voir un film et qu'on sort du cinéma et que chacun prend sa route. Aucune conscience que je viens de leur sauver la vie. Ils n'ont aucun remerciement, aucun... rien. Comme s'ils passaient dans une autre étape de leur vie. C'est-à-dire que ni merci ni au revoir. Quand même, c'est incroyable. Ils sont partis. Ils ont suivi leur route. 2 ans plus tard, avec René, on échangeait au téléphone. Il me dit, tu devineras jamais. Donc Bernard, qui était assez étrange, est devenu apprenti boucher. Lui qui voulait rien faire de ses 10 doigts, il s'est complètement posé. Il a une fiancée. Et Marc, le plus grand, là, celui qui était un peu idiot, il avait aussi, lui, complètement viré de bord. Il avait, je crois, fait une formation. Il avait cherché à apprendre. Enfin, il s'était remis en question fondamentalement. Mais le plus drôle, c'était le plus jeune. Lui, qui était skinhead, il est devenu hippie et plutôt baba cool. Et que le fait qu'il passe de skinhead à hippie, rien que ça j'ai éclaté de rire au téléphone. Au moins, ça aura servi à quelque chose.
Con te resto a guardare il mar, l'immenso mar. E sento giungermi nel cuore un'onda d'amore infinita. Vorrei in riva al mare, amor, con te sognare, l'ebbrezza languida provare, di darti in un bar vita, ma tu in riva al mare che fai, non vuoi parlare, in te non senti un mar d'amore che giunge a me, così resto a guardare il mare, l'immenso mare, e sento l'anima vibrare.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec 2 catastrophes racontées par Delphine Saltel et réalisée par Alexandra Malka. Merci à Nadine Carayon et à Anne Decré du collectif des naufragés du Costa Concordia. Vous aurez bien sûr reconnu qu'il s'agissait d'une histoire du Costa Concordia. Merci également à Vincent Vachette et à Marc Tirselin. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Melville Letellier, c'est notre stagiaire. Vos commentaires, vos réactions, des partages, des likes, des clics, c'est sur notre page Facebook ou bien notre compte Twitter. On vous y attend avec impatience.